depuis Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie au monde.
Bonsoir chers auditeurs, ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Des dizaines de citoyens indonésiens de Syrie sont arrivés en Indonésie. Le rebelle houthis du Yémen revendique une attaque au missile en Israël central. Yon Zipur a déjoué la contrebande de 4 kg de méthamphétamine à la frontière RI-Malaisie. Le Congrès américain adopte un projet de loi pour empêcher la fermeture du gouvernement. Les renseignements pakistanais affirment qu'une attaque militante a tué 16 soldats. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. Le 20 et 21 décembre 2024, le ministère des Affaires étrangères a de nouveau réussi à évacuer 91 citoyens indonésiens répartis en 3 vols. La majorité des citoyens indonésiens sont des travailleurs migrants et des étudiants originaires entre autres d'Aceh, de Sumatra du Nord, de Riau, de Jambi, du DKI Jakarta, de Java de l'Ouest, de Java Central, de Java de l'Est et de Nusa Tenggara de l'Ouest. Dans un communiqué officiel reçu samedi à Jakarta, le ministère indonésien des Affaires étrangères a déclaré que les citoyens indonésiens avaient déjà été évacués par voie terrestre de la ville de Damas vers la ville de Beyrouth accompagnés de diplomates de l'ambassade d'Indonésie. Avec le retour de cette dernière vague, le nombre total de citoyens indonésiens qui ont été évacués avec succès après la transition gouvernementale en Syrie s'élève à 156 citoyens indonésiens répartis en 4 vagues. Actuellement, le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade d'Indonésie à Damas continuent de suivre et de collecter des données sur les citoyens indonésiens qui pourraient encore se trouver en Syrie et ne se sont pas encore signalés. Le ministère des Affaires étrangères continue d'exhorter les citoyens indonésiens, en particulier ceux qui se trouvent encore en Syrie, à continuer de prêter attention à l'évolution de la situation et de la sécurité, à éviter de s'impliquer dans des activités politiques inutiles et à maintenir la communication avec les représentants indonésiens à Damas. Les rebelles de Houthis du Yémen ont revendiqué samedi la responsabilité d'une attaque de missiles en Israël central après que l'armée israélienne a admis qu'elle n'avait pas réussi à intercepter le projectile qui a touché Tel Aviv. Cité par l'AFP à Jakarta, dans un communiqué, les Houthis ont affirmé avoir ciblé des cibles militaires ennemies israéliennes dans la région occupée de Tel Aviv à l'aide de missiles balistiques. Les équipes de secours israéliennes ont signalé plus tôt que 16 personnes avaient été blessées lors de l'attaque. Le groupe de travail sur la sécurité des frontières du RI Malaisie, Yonzipur 5 ABW, a de nouveau déjoué la contrebande de 4 kg de méthamphétamine en cristaux à Sungai Tekam, district de Sekayam, région de Sangau, Kalimantan de l'Ouest. Cité par Antara à Jakarta samedi, le commandant du Korem 121 à Lambana, Wanawai, le général de brigade Lukman Arif, a déclaré que cette mesure a été prise basée sur les informations de la communauté Radar Embryo Antinarcoba, ou abrégé en REAN. Même si les preuves ont été obtenues avec succès, les passeurs auraient fui vers le territoire malaisien via la route d'Erat à la frontière entre le RI et la Malaisie. Il a expliqué que l'année dernière, l'armée indonésienne avait réussi à contrecarrer la contrebande de méthamphétamine en cristaux d'un poids total de plus de 200 kg et de centaines de pilules de méthamphétamine. Le Kalimantan de l'Ouest est l'une des zones sujettes au trafic des drogues car il borde directement la Malaisie. Le Congrès américain a évité une fermeture du gouvernement tôt samedi matin après des semaines de négociations houleuses alors que le Sénat a approuvé un projet de loi adopté par la Chambre pour financer les agences fédérales jusqu'à la mi-mars. Cité par l'AFP à Jakarta, alors que les délais de minuit étaient expirés depuis plus d'une demi-heure, les sénateurs ont précipité le paquet jusqu'à le vote. Cet effort a stoppé les préparatifs de fermeture et a sauvé Noël pour plus de 800 000 travailleurs qui risquaient d'être renvoyés chez eux sans salaire. Des responsables de renseignement pakistanais ont déclaré samedi que des militants pakistanais avaient lancé une attaque audacieuse la nuit contre un poste militaire près de la frontière afghane. Cette attaque a tué 16 soldats et en a gravement blessé 5 autres. Cité par l'AFP à Jakarta, ce responsable qui a souhaité garder l'anonymat a déclaré que l'attaque avait été menée par plus de 30 militants dans la région de Makan, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa. Il a ajouté que les militants ont brûlé des matériels de communication sans fil, des documents et d'autres objets au poste de contrôle. Parallèlement, dans un communiqué, les talibans pakistanais ont revendiqué la responsabilité de l'attaque. Le communiqué indique que l'attaque a été menée en représailles à l'assassinat d'un autre commandant taliban pakistanais. C'est tout le journal d'aujourd'hui. Voici la mise au point de la semaine dont le titre est « L'Indonésie encourage le renforcement de la coopération du D8 ». Le président indonésien Prabowo Subianto a assisté à la 11e conférence de haut niveau de Developing Aid ou D8 ou du Forum économique de 8 pays en développement au Caire jeudi dernier. D8 est une organisation de coopération au développement fondée en 1997 par la déclaration d'Istanbul. Les pays membres de D8 sont le Bangladesh, l'Égypte, l'Indonésie, l'Iran, la Malaisie, le Nigeria, le Pakistan et la Turquie. Lors du forum, le président Prabowo a souligné le grand potentiel du D8 en tant que troisième plus grande économie avec un PIB total de 4,81 billions de dollars américains en 2023. En dehors de cela, selon lui, le D8 possède également une richesse en ressources de la mer qui peut améliorer sa position sur la scène internationale. Cependant, selon Prabowo, tout ce potentiel doit pouvoir apporter de réels bénéfices à la société en renforçant l'intégration et la coopération économique entre les pays membres.
But to give more tangible benefits for our peoples,
toutefois, pour apporter des réels avantages à notre peuple, le D8 doit approfondir l'intégration et la coopération économique. Entre autres choses, nous devons mettre en œuvre efficacement l'accord commercial préférentiel entre nous. Nous devons également établir des procédures douanières plus intégrées et simplifiées dans les échanges entre D8. En dehors de cela, nous devons créer une chaîne de valeur halal en renforçant le réseau économique halal D8. Prabowo a également rappelé que le D8 était plus qu'un simple bloc économique. Et selon lui, le D8 est un mouvement global du Sud. Et alors, a-t-il souligné, le D8 devait toujours également lutter pour un ordre mondial plus juste fondé sur le droit international, l'inclusivité, la justice et la prospérité partagée. Pour y parvenir, a ajouté Prabowo, on a besoin d'une plus grande représentation des pays du Sud dans les processus décisionnels. Pour cette raison, selon Prabowo, le D8 doit s'unir pour oublier les différences existantes et donner la priorité au bien commun du peuple. Selon Prabowo, sans unité, le D8 deviendra un groupe faible et les puissances mondiales l'exploiteront facilement. En dehors de cela, Prabowo a également encouragé D8 à inviter plus de membres à rejoindre D8. Selon lui, le D8 doit avoir la force du nombre de pays pour pouvoir profiter de la collaboration pour une prospérité mutuelle.
We must drive economic growth. We must work to achieve industrial and technological strength.
Nous devons encourager la croissance économique. Nous devons travailler pour atteindre la puissance industrielle et technologique. Et nous devons faire la prospérité dans le monde musulman en éliminant la pauvreté. Unissons-nous pour faire du D8 un catalyseur de changements positifs, un champion des aspirations du Sud et des musulmans. Prabowo a également clôturé son discours en exprimant l'engagement et la volonté de l'Indonésie de faire face à l'avenir et en soulignant cette vision commune. Il a également invité le D8 à faire partie de l'espoir de tous les pays membres et du monde.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia, on commence l'histoire d'aujourd'hui avec le 22 décembre,
la fête des mères en Indonésie. En Indonésie, le 22 décembre est célébré comme la fête des mères. La date est prise à partir du jour d'ouverture du premier congrès des femmes indonésiennes, le 22 décembre 1928. Ce congrès s'est tenu à Yogyakarta, en présence de plus de 30 organisations de femmes des 12 villes de Java et de Sumatra. Le congrès des femmes indonésiennes de l'époque avait pour objectif d'améliorer les droits des femmes dans les domaines de l'éducation et du mariage. On a considéré la mise en place du premier congrès des femmes indonésiennes comme l'un des jalons de l'histoire du mouvement national indonésien, car les femmes se sont unies aux côtés des hommes pour lutter pour l'indépendance nationale. Le président Sukarno a ensuite désigné le 22 décembre comme la fête des mères par le décret présidentiel numéro 316 de 1959, signé le 16 décembre 1959. Ensuite, aux événements du 22 décembre 1989, on a réouvert la porte de Brandebourg au public. La porte de Brandebourg est un monument néoclassique de Berlin, la capitale de l'Allemagne, qui a été achevée en 1791. Cette porte a été construite sur ordre du roi de Prusse de l'époque, Frédéric Guillaume II, pour faire de la ville de Berlin le centre de pouvoir du royaume de Prusse. Après que la Seconde Guerre mondiale ait mis fin au régime nazi en Allemagne, la porte de Brandebourg a été placée dans la zone d'occupation de l'Union soviétique, qui est devenue plus tard l'Allemagne de l'Est pendant la guerre froide. Cette porte était fermée au public pour contrôler les mouvements de population à Berlin-Est. À la fin des années 1980, les Berlinois des deux côtés du mur réclamaient la suppression des restrictions à la circulation de la population dans la ville. Le 22 décembre 1989, la porte de Brandebourg a rouvert ses portes au public après que le chancelier US allemand Helmut Kohl ait franchi la porte pour rencontrer le premier ministre US allemand Hans Modrow. On termine l'histoire d'aujourd'hui avec le 22 décembre 2018, le tsunami du détroit de la Sonde. Le 22 décembre 2018, le tsunami provoqué par l'éruption de Anak Krakatau dans le détroit de la Sonde a frappé les zones côtières de Banten et Lampung. Plusieurs mois avant le tsunami, le mont Anak Krakatau avait montré une activité accrue avec une éruption. Au moins 429 personnes sont mortes, 7202 ont été blessées et 154 personnes ont disparu à la suite de cet incident. Selon l'Agence de météorologie, climatologie et géophysique, le tsunami a été provoqué par des marées hautes et des glissements de terrain sous-marin dus à l'éruption volcanique. L'Agence nationale de gestion des catastrophes a déclaré que les dégâts matériels causés par le tsunami comprenaient 556 maisons endommagées, 9 unités hôtelières gravement endommagées, 60 stands culinaires endommagés et 350 navires et bateaux endommagés. En dehors de cela, l'autoroute reliant Serang et Pandeglang a été coupée. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Hati ini won my heart.
Voilà la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, mon Indonésie d'aujourd'hui est intitulée L'événement promotionnel du 20e championnat du monde de pencaksilat sur la scène olympique. Le pencaksilat est un sport typiquement indonésien qui s'est développé et s'est répandu aux pays d'Asie du Sud-Est et qui est de plus en plus connu dans la communauté internationale. Cela a été prouvé par la tenue du 20e championnat du monde de pencaksilat à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis du 18 au 22 décembre 2024. La reconnaissance croissante du pencaksilat sur la scène internationale a donné pour mission que ce sport indonésien unique puisse apparaître lors de prestigieux événements olympiques. Concernant son introduction sur la scène mondiale, le ministre indonésien de la Jeunesse et des Sports, Dito Aryo Tejo, a déclaré que les efforts visant à emmener le pencaksilat à participer aux Jeux olympiques étaient une mission importante derrière l'organisation du 20e championnat du monde de pencaksilat à Abu Dhabi. Selon le ministre Dito, le désir d'emmener le pencaksilat aux Jeux olympiques est conforme aux résultats de la réunion entre le président du Comité international olympique Thomas Bach et le président général de l'Association indonésienne du pencaksilat, Prabowo Subianto, qui est désormais également président de la République d'Indonésie aux Jeux olympiques de Paris en août dernier. Le ministre de la Jeunesse et des Sports espère que la tenue du 20e championnat du monde de pencaksilat pourra également être un événement permettant de renforcer les relations et les objectifs entre les pays impliqués et de socialiser le pencaksilat en vue des Jeux olympiques. La raison en est que la communauté militante du pencaksilat vise la reconnaissance de ce sport par le CIO avant 2028 afin d'ouvrir des opportunités de concourir au niveau olympique. D'autre part, le ministre de la Jeunesse et des Sports a également déclaré que la tenue du championnat pencaksilat à Abu Dhabi était un symbole d'amitié entre l'Indonésie et les Émirats Arabes Unis. Le 20e championnat du monde junior de pencaksilat et le 5e championnat du monde junior de pencaksilat ont réuni environ 1100 athlètes de 55 pays. L'Indonésie a emmené 78 athlètes à Abu Dhabi pour concourir, tandis que 115 autres athlètes ont participé à la cérémonie d'ouverture. C'est tout mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Meskipun ku tak mau kau dekati diriku, namun saat aku buka pintu di hatiku, tiada lagi dirimu, kau menjauh dariku. Mengapa kini kau harus pergi di saat ku telah jatuh hati?
Haruskah salahkan waktu atas segalanya? Mengapa, mengapa dia tak berpihak pada cinta kita? Oh, hingga kemarau ku bersemi, izinkan aku menanti kau buka pintu hatimu kembali. Oh, sayangku tak bisa dibuatmu kecewa. Kau buatku mati rasa meski ku
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, pour vous qui aimez voyager, il y a beaucoup de choix de destinations touristiques dans la province de Riau. L'une d'elles est la cascade Guru Gemurai, qui se trouve à la frontière de Sumatra de l'Ouest et de Riau, précisément au village de Kasang, sous-district de Kuantan Murik, district de Kuantan Singingi, on appelle souvent Kuansing, Riau. Kuantan Singingi, alias Kuansing, est un district qui tire son nom des deux lacs qui le bordent, le lac Kuantan et le lac Singingi. Il y a 23 cascades situées à la région du district de Kuantan Singingi. L'une des plus belles et des plus faciles à visiter Ella Cascade, Guru Gemurai, Siang Chang Teres, Kiatir, Le Touriste. Chers auditeurs, la cascade Guru Gemurai a une hauteur d'environ 20 mètres. Il existe 7 niveaux de cascade Guru Gemurai avec différentes hauteurs. Les touristes passent plus de temps au premier niveau. Outre sa forme en champ terrestre, le fond ressemble à une piscine. À gauche et à droite de la cascade se trouvent des rochers et des forêts naturelles. L'air était si frais et confortable. Pour accéder au pied de la cascade, la direction a réalisé des escaliers en béton afin que l'accès à l'emplacement soit plus sécurisé. Les visiteurs doivent être prudents car les escaliers sont assez raides. Ensuite, pour atteindre un autre niveau de la cascade, les visiteurs peuvent monter les escaliers au bord des rochers. Ce n'est pas tous les niveaux de la cascade qu'on peut atteindre car l'accès au fond n'est pas entièrement géré. La cascade Guru Gemurai est assez spéciale, car outre ses belles vues, les conditions sont toujours naturelles, l'eau est claire et l'endroit est confortable. Cette cascade porte un nom unique, à savoir Guru Gemurai, qui est tiré de la langue locale, car cette cascade ronde des éclaboussures d'eau. Guru signifie le son, tandis que Gemurai signifie les éclaboussures d'eau dispersées. Ce nom a été pris comme nom de la cascade parce qu'après avoir arrivé à cet endroit, nous entendrons le bruit de l'eau rugissante comme une musique naturelle. La source d'eau provient de la zone forestière protégée de la colline Betabo. Chers auditeurs, cette attraction touristique est visitée presque tous les jours par la population locale. Mais les visiteurs seront encore plus occupés aux grands jours comme les jours fériés, les vacances et aussi les jours de la baignade au soir Belimau, qui est une tradition de la communauté malaise de Riau pour accueillir le mois de Ramadan. Cette tradition se réalise en se baignant avec du jus de citron vert et du pot pourri. Chaque année, la tradition a lieu à cet endroit. Lorsque vous voyagez à la cascade Guru Gemurai, n'oubliez pas d'apporter un appareil photo, car il existe de nombreux endroits intéressants pour prendre des selfies, comme des escaliers très proches du flux de la cascade et des ponts. En dehors de cela, depuis le sommet de la cascade Guru Gemurai, qui est également l'une des plus belles cascades d'Indonésie, vous pouvez admirer la magnifique vue sur la région verdoyante de Kuantan Singingi. Nous terminons le magazine culturel cette fois-ci. Nous nous retrouvons avec un autre sujet intéressant. Voici la voix de l'Indonésie à Jakarta.
Jatuh hati padamu sepenuh hati, hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakui. Tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi, tanpa tahu rasa ini rasaku membenci. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengannya, semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa
padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonjour à notre ami d'Algérie, Abdelkader Khalil. Merci beaucoup pour vos chaleureuses félicitations. Je vous apprécie vraiment. Et nous espérons également pour que vous soyez toujours en bonne santé, heureux et prospères. Merci à vous qui nous ont toujours écoutés et restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. La suite, écoutons la rubrique suivante, l'Indonésie en couleur. Voici l'Indonésie en couleur, dont le titre est « Les divers arbres de Noël uniques ». Chers auditeurs, à l'occasion de Noël 2024, divers lieux ont été décorés de belles décorations de Noël. L'une des décorations de Noël toujours présentes est le sapin de Noël. En général, les sapins de Noël sont fabriqués à partir de vrais pains ou de plastique décorés de diverses décorations de Noël. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il existe un sapin de Noël unique. Ce sapin de Noël est fait à partir de centaines de livres de la collection de la bibliothèque. L'université chrétienne Petra ou Uka Petra de Surabaya a créé un sapin de Noël de 7 mètres de haut avec une ambiance hollandaise à partir de près d'un milliard de livres de la collection de la bibliothèque. L'arbre de Noël sur le thème Wijnmolen Kaasboom utilise un cadre en bois et contreplaqué. L'ornement se compose de 930 livres, 50 magazines et 120 DVD ou VCD sur le christianisme qui ont été empilés sur environ une semaine. À travers cet arbre de Noël, l'université chrétienne Petra souhaite transmettre le message selon lequel les livres et les collections de bibliothèques qui stockent des connaissances sont une source d'inspiration inépuisable. chers auditeurs, outre l'Université chrétienne de Petra, il y a un arbre de Noël unique à l'église GKI Tabernacle à Pati. Il y a un imposant sapin de Noël fabriqué à partir de galons d'eau minérale usagée disposés en forme de pain. Le sapin de 6 mètres de haut est décoré de divers beaux accessoires de Noël. Pour fabriquer cet arbre de Noël, il a fallu 350 gallons d'eau minérale qui ont été donnés par les congrégations de la région de Pati. L'arbre de Noël des galons a été conçu pour rappeler à la congrégation son souci de l'environnement, surtout comment utiliser les déchets. Chers auditeurs, la paroisse Saint-Vincent de Paul de Surabaya accueille Noël avec un sapin de Noël unique. Ce sapin de Noël de 5 mètres de haut a été fait à partir de 900 articles ménagers. Cet arbre n'est pas seulement une décoration, mais aussi un symbole de solidarité et d'espoir pour une vie meilleure. Tous les meubles, comme des poêles à frire, des fers à repasser, des cours magiques, des planches à découper et un réfrigérateur et des vélos, ont été donnés par des personnes. Ces meubles seront ensuite distribués via une loterie de coupons lors de la fête des rois mages le 6 janvier 2025. Outre son caractère unique, cet arbre a également une philosophie profonde. La largeur de la base de l'arbre symbolise les relations humaines avec les autres, tandis que la partie supérieure, effilée, représente les relations humaines avec Dieu. Voilà l'Indonésie en couleur. Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois-ci, je vais parler d'une chanson de Hanindia. Hanindia Chitaning Tias, plus connue sous le nom de Hanindia, née le 21 février 2001, est une jeune chanteuse indonésienne talentueuse. Elle a sorti son dernier ouvrage intitulé « Obad untuk Ibu ». Cette chanson raconte d'amour, de sacrifice et de gratitude d'un enfant envers une figure maternelle qui se bat toujours de manière altruiste. Dans les paroles, cette chanson décrit comment une mère cache souvent sa fatigue et son anxiété pour le bien de l'avenir de ses enfants, comme si tout allait bien. Selon Hanin, Obad untuk Ibu est le plus approprié à écouter lorsque des sentiments de nostalgie pour la mère apparaissent au milieu d'horaires chargés, en particulier pour ceux qui sont loin de leur figure maternelle. La chanson Obad untuk Ibu a impliqué de nombreux musiciens dans le processus de production. Aris Nur Iskandar et Tito Pesunardi ont agi en tant qu'écrivains et auteurs-compositeurs, tandis que les arrangements musicaux étaient gérés directement par Tito Pesunardi. Bon, chers auditeurs, voici Obad untuk Ibu de Hanindia. Bonne écoute!
Panjang usiamu dan bersamaku selalu.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.